Bonjour à tous, nous sommes la classe de seconde 4 du lycée Henri Sellier de Livry-Gargan. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la librairie des Deux Georges à Bondy en ce 10 mai 2023. Dans le cadre de la quinzaine des libraires, nous accueillons Sophia Awin. Donc, vous êtes née en 1978, vous avez travaillé comme reporter radio et documentariste à France Culture, RFI et France Inter notamment. Vous avez écrit Rhapsodie des Oubliés, paru en 2019 aux éditions La Martinière. Et il eut un tel succès qu'il obtenu le prix de Flore. Donc bienvenue Sophia Awin et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous, bonjour à tous les élèves du lycée Henri Sellier. Je suis ravie d'être parmi vous dans le cadre du dispositif Bibliocité. Comme le disait Mélodie, la présentatrice du podcast, j'ai 45 ans, donc ça fait trois fois votre âge. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 90, je suis née en 1978, j'ai été placée très jeune dans ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Et en fait, j'ai passé presque 20 ans de ma vie dans le cadre de ce dispositif où on est confié à des institutions, etc. Et vers la fin, en fait, de ce qu'on appelle les contrats jeunes majeurs, donc c'est entre 18 et 21 ans, si on a de la chance, on est envoyé en général soit dans des foyers, des appartements semi-autonomes. Et mon dernier endroit, c'était à Bondy, dans un foyer qui a été détruit et qui était près des Coquetiers. Je ne sais pas si cette gare existe encore, mais en tout cas, j'ai passé donc, les dernières années de mon errance en tant qu'enfant placé à Bondy, donc autour d'ici. Donc ça me fait assez étrange de venir dans le coin. Je me souviens d'un bâtiment d'une mairie un peu comme ça, d'architecture communiste. Le Monoprix existait déjà. Il y avait la place de la mairie, etc. Mais il n'y avait pas encore de librairie. Donc je trouve que le fait d'avoir des librairies en Seine-Saint-Denis, c'est vraiment intéressant. Et le fait de revenir ici en tant qu'écrivain, ça fait une sorte de boucle qui est assez touchante, en tout cas pour ma part. Voilà. Je me sens un petit peu comme le livre que vous avez lu tous, un peu comme la classe de seconde, un peu comme Abad aujourd'hui, c'est-à-dire comme Abad, comme vous avez lu dans le roman, comme ce gosse comme ça qui arrive en France, qui est d'origine syro-libanaise, qui est jeune et qui se retrouve dans une ville qu'il ne connaît pas. Moi, quand je suis arrivée à Bondy à l'époque, je ne connaissais pas cette ville. La population a changé, mais en fait, l'atmosphère sociale est quand même toujours le même, c'est-à-dire avec des gens qui travaillent, qui sont plutôt de classe... on va dire ouvrière, etc., avec les problèmes sociaux qu'il y a, et en même temps aussi un passé et quand même une vie qu'on traite pas beaucoup en littérature, notamment dans la littérature contemporaine aujourd'hui. On va dire les gens qui sont en dehors du périphérique et pas forcément à Paris, même s'il y en a de plus en plus, mais je me sens assez touchée d'être là et de venir avec ce livre-là, en tout cas, Abad et Rhapsodie des Oubliés.
Donc voilà, on va vous poser certaines questions à propos du livre et notamment pour ceux qui veulent lire un passage qui nous a marqué.
Avec plaisir.
Alors j'avais plusieurs questions à vous poser. Déjà, je voulais vous demander d'où vient cette passion pour l'écriture ?
Alors la passion pour l'écriture, elle est venue avec l'envie d'exprimer justement une parole qui n'était pas forcément celle qu'on attend de la littérature quand on dit littérature. J'imagine que vous, en étant lycéen et avant collégien, lire un livre, ça représente quand même un engagement qui, en dehors de vos habitudes internet, les téléphones TikTok et tout, ça peut être parfois peut-être un peu intimidant. Et moi, ça a été pareil pour moi au tout début parce que, comme je vous disais, je ne viens pas d'un milieu social où il y avait une bibliothèque. J'ai pas grandi, j'ai pas je suis passée par ma famille, j'ai grandi un peu à Stein dans le 93 aussi, ouais. Mais j'ai pas eu de bibliothèque chez moi, c'est-à-dire qu'on m'a pas transmis la lecture et on va dire que mon rapport à la culture a été assez difficile au début parce que j'avais l'impression que j'y avais pas le droit. Et puis c'est venu après avec le goût, avec l'envie aussi de m'exprimer, d'exprimer quelque chose et d'apprendre aussi l'étranger, l'étrange, en dehors de ce que je vivais en fait dans ma condition d'enfant placé en Seine-Saint-Denis, on va dire. Et l'écriture, ça a été pareil, c'est-à-dire qu'à un moment, moi j'ai eu la chance de faire des belles rencontres dans ma vie, de gens qui m'ont fait confiance, de personnes qui m'ont écoutée, qui ne m'ont pas jugée en tant que jeune fille au passé compliqué d'origine maghrébine. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais. Et qui ont fait confiance des personnes qui n'étaient pas du tout de mon origine sociale. Et grâce à ça, on va dire que j'ai pris confiance en moi et que j'ai pu me permettre d'écrire. Parce que écrire, c'est difficile, en fait. Se donner le droit d'écrire, c'est difficile. Comme se donner le droit, par exemple, de prétendre, quand on est un gamin qui n'est pas forcément d'un milieu social avantagé, de prétendre à faire Sciences Po, vous voyez ce que je veux dire ? Quand ça va vous poser la question de est-ce que je veux continuer en bac général ou est-ce que je veux faire des études supérieures après ? Moi, par exemple, en troisième, on m'a orientée vers un BEP vente action marchande et je suis devenue écrivain. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'écriture, ça a été pareil. Ça a été beaucoup de travail de dépasser une autocensure. Et en même temps, ça a été parce que la littérature dans ma vie a complètement changé ma vie. Elle m'a permis de pas crever. C'est-à-dire, elle m'a permis vraiment de sortir de cette espèce de destin que mes parents m'avaient auto-écrit. Quoi. Et l'écriture, c'est quelque chose de fantastique. Après, il faut se donner le droit de le faire. Il faut avoir envie de le faire, bien sûr. Mais ça permet vraiment de changer de vie, en fait. Et je suis à la fois persuadée que pour être écrivain, il faut lire. On ne peut pas être écrivain sans lire. Après, vous êtes une génération qui écrit beaucoup. Quand vous écrivez des SMS, des TikTok, quand vous envoyez des flammes sur Snapchat, ou quand vous faites des tweets ou autres, ou pas que, hein, les WhatsApp, les Telegram et tout, vous écrivez beaucoup. Mais il faut lire. Voilà, il faut lire énormément. J'ai l'impression que je vous intimide, il ne faut pas du tout. Je suis très bavarde, en plus je suis excitée parce que je suis arrivée de... Je me suis tapé la mission pour venir ici, mais je vais me calmer, je vais être sur mode. Voilà. J'ai répondu à ta question ?
Oui, et il me reste 1, 2, 3, 4.
Allez, vas-y.
En combien de temps avez-vous écrit ce roman ?
Alors, Rhapsodie des oubliés, j'ai commencé en 2013, donc ça rejoint ta première question qui était très intéressante. Après, je pourrais prendre 3 semaines pour te répondre, toute une vie, parce que c'est, quand on pose cette question à un écrivain, c'est un océan, quoi. Et je suis, j'ai mis à peu près, j'ai commencé en 2013, un jour j'avais un peu arrêté la radio, parce que comme disait votre camarade quand elle m'a présenté, effectivement, je faisais de la radio. Faire de la radio, ça me permettait de m'exprimer. Et puis à un moment, socialement, ça a été compliqué de trouver du travail. Donc j'ai arrêté la radio, ça a été difficile à vivre. Et l'écriture est venue à ce moment-là pallier ce manque de ce manque de micro, c'est-à-dire ce manque du fait de pouvoir prendre ma voix, quoi. Donc, un jour de 2013, ce gamin, il est venu me parler comme si j'avais pas de copain, que j'étais une schlag. Il est venu me parler comme ça, en me disant « écris-moi ». Et puis, il s'est présenté sous la forme d'un jeune garçon de 13 ans, adolescent, en me disant « écris-moi ». Et puis, il m'a pas lâché pendant 6 ans. Et puis sur cette route-là, j'ai rencontré mon éditeur, voilà. Donc j'ai mis à peu près 6 ans à l'écrire, mais je ne l'écrivais pas tous les jours. Il y avait des années entières où j'ai arrêté parce que je me battais contre cette autocensure, pareil, de me donner le droit d'être écrivain. Et je le suis toujours, hein. J'ai sorti un livre, il a eu de la chance d'être trouvé des lecteurs, de rencontrer l'éducation nationale, enfin en tout cas d'être étudié au lycée. Et en même temps, je me bats toujours contre cette autocensure. Si je suis venue aujourd'hui, c'est un message que je voudrais vous passer, vous, à lycéens, vous êtes la nouvelle génération, c'est que vraiment cette maladie de l'autocensure, de pas avoir se donner le droit à avoir des désirs, même si je sais que votre génération, elle est assez libérée là-dessus, c'est vraiment ça que je voudrais vous faire passer, en tout cas, dans cet entretien, quoi.
Ok. Pourquoi l'avez-vous... Non, mais
bon, ok, d'accord. Non, c'est pas évident de faire ce métier-là, hein. Mais moi au début. Et quand t'entendras ta voix après le montage, ça sera encore pire. C'est difficile de s'écouter ou de poser des questions.
Avez-vous une routine d'écriture ?
Oui, la première, c'est souvent j'écris le matin au lever. Et puis aussi, j'ai tout testé. J'ai testé la nuit. Alors, ça m'a rendue très fatiguée parce que travailler la nuit et dormir la journée, c'est bon pour personne. Et puis, ma routine d'écriture là, parce que mon deuxième roman est en train d'être terminé, c'est plutôt le matin au réveil. Ça va vous paraître un peu étrange, mais dans mon lit, j'écris. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivaient dans leur lit, Flaubert notamment, Proust aussi. J'écris dans mon lit, j'écris aussi beaucoup sur des carnets. Et puis parfois, quand me vient une idée, ma routine préférée, c'est d'essayer qu'elle me suive toute la journée. Et quand je marche, d'avoir une phrase qui se déroulent comme ça au fur et à mesure des rencontres, des choses que je vois. Voilà. Donc j'essaye d'écrire à peu près tous les jours, mais des fois, ce n'est pas évident. Voilà. Mais je crois que toute sa vie d'écrivain, on cherche la manière dont on écrit, en fait. Il y a des ateliers maintenant, des masters, il y a des cours, des ateliers d'écriture, mais il n'y a pas vraiment de méthode. Je crois que la mienne, c'est d'écouter en tout cas les phrases et de ne pas les laisser mourir dans l'œuf. Voilà.
D'accord. En fait, je vais arrêter les questions et j'aimerais vous lire un passage et vous poser une question par rapport au passage.
Bien sûr.
Malgré tout ce bordel, je ne cédais pas. Ils pouvaient même appeler le GIGN, je ne leur parlerai pas. Je savais au fond de moi que si je leur avais tout dit sur la branlette, sur ce qui me traversait et sur le pays qui était loin, Mémé Djemayel, qui me manquait à en crever, les fantômes et les cauchemars, la nuit, les nichons, la fille d'en face que j'aimais, je me serais quand même fait punir par tout le monde. Que même si je leur disais la vérité, ils ne me croiraient pas. Les parents perchés dans leur tour d'ivoire veulent toujours vous faire avouer des choses que vous n'avez pas faites, mais ils refusent de vous entendre. Un matin, en dernier recours, on m'avait envoyé voir la dame censée guérir mon dedans et faire de moi un bon garçon, celui que les darons pourraient enfin aimer comme un fils, un vrai. C'est le juge des enfants qui avait ordonné le suivi thérapeutique. Sinon, c'était direct le foyer et l'enfer qui va avec. Ce passage, je l'ai choisi aussi parce que je me vois dedans et je l'ai trouvé très intéressant. Et je voulais savoir si c'était pareil pour vous quand vous l'avez écrit. Est-ce que vous avez vécu ce passage ?
Oui, complètement. J'ai vécu ce passage. Comme je vais te tutoyer, comme je te disais tout à l'heure, avec l'histoire que j'ai, l'histoire personnelle, c'est pas autobiographique, mais c'est autobiographique. C'est toujours bizarre. Mais en général, quand on écrit un premier roman, on met tout ce qu'on est dedans. Mais on écrit en pulsion, c'est-à-dire on écrit comme ça. Et après, des années plus tard, quand on entend une jeune femme comme toi en train de le lire, on se rend compte à quel point ça raconte toute sa vie et à quel point, en fait, vous êtes mis à poil presque. Donc oui, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, ce silence de la jeunesse. J'ai vécu le manque de compréhension du monde adulte. J'ai vécu aussi cette espèce d'un peu de solitude intérieure qu'on a quand on est adolescent. Et j'ai voulu le raconter comme ça parce que c'est un âge, en fait, tout est mélangé, tout est éclaté, et puis c'est les adultes qui sont autour de vous qui vous permettent de grandir, en fait. Donc Rhapsodie des oubliés, c'est vraiment effectivement quelque chose que j'ai vécu, parce qu'on a tous été adolescents, enfants, et je suis d'autant plus touchée qu'une lectrice comme toi me dise que ça t'a parlé, quoi. Qu'est-ce qui t'a parlé le plus, justement, dans...
Ah, c'est le fait que je vis ce passage en ce moment même. Ça veut dire que c'est très touchant, en fait. Quand j'ai lu ce passage, j'étais en mode... Ah oui, c'est moi. Et c'était touchant.
C'est un vrai cadeau que tu me fais en tant que lectrice, parce que quand on écrit tout seul comme ça, c'est difficile d'écrire. Et après, un roman, c'est comme un enfant, c'est-à-dire on le laisse et tout le monde s'en va se promener avec. Et que ça touche une jeune femme comme toi, c'est pour ça qu'on écrit. C'est pour raconter des histoires aux autres et c'est pour que leur apporter quelque chose et qu'ils l'emportent loin. Si un jour tu grandis et que tu as ce livre dans ta bibliothèque et que tu l'offres à ta gamine ou à ton gamin, bah, je serais contente. Bon, je serais très très âgée, peut-être à l'EHPAD en train de baver, mais en tout cas, je serais très contente. Enfin voilà. Bah, merci beaucoup.
Bah, je vous remercie à vous d'avoir répondu à mes questions.
Je vous en prie. Alors, la prochaine cuisinière, voilà. Cuisinier.
Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'être là.
Alors, quel est votre prénom ?
Amine.
Amine, enchanté.
Enchanté. Alors, j'avais quelques questions par rapport au livre, parce qu'on l'a lu en classe et il m'a plu. On a lu votre livre en classe, mm-hmm. Et il m'a touché. J'ai bien aimé le livre parce que je trouvais ça bien, le côté cru du livre, le côté sans gêne, parce qu'on vit dans un monde comme ça au jour d'aujourd'hui. Mm-hmm. Donc c'est mieux de... Ça, le livre, il me touche plus que si je lisais un livre avec un langage plus soutenu, etc. Il m'attend plus, en fait, le livre.
C'est le langage parlé du héros qui t'a touché.
Du héros, ouais, j'ai bien aimé le héros.
D'accord.
Et du coup, j'avais quelques questions par rapport au livre. Alors, quelle a été votre inspiration pour écrire Rhapsodie oubliée ? Y a-t-il des événements ou des personnes de la vraie vie qui vous ont influencé dans l'écriture du livre?
C'est une très bonne question. J'ai été donc dans Rhapsody des... Mais j'aime bien le fait que tu aies fait un tout petit accroche en disant Rhapsody oubliée, parce que j'ai failli appeler le livre comme ça. Et puis je me suis dit que justement, pour répondre à ta question, je ne parlais pas que de l'oubli d'une seule personne ou d'une société ou d'un territoire, je parlais des oubliés. D'accord. Donc ça se passe à la Goutte d'Or, etc., dans une rue. Et le personnage principal, c'est Abad, de 13 ans. Et puis c'est aussi la rue, et c'est aussi Paris, et entre guillemets, la France, quoi. Donc Rhapsody des oubliés, c'est une j'ai trouvé les personnages aussi dans mon travail de reporter, dans mon travail de documentariste, dans toutes mes rencontres, dans mon enfance personnelle, dans toutes mes lectures, dans beaucoup de références, parce que Rhapsody des oubliés, tu parlais de sans gêne, et ben moi, pour mon premier roman, je me suis permise de parler des œuvres qui m'ont accompagnée en tant qu'enfant, adolescente et femme, notamment le cinéma de François Truffaut, de La Nouvelle Vague, les livres de Romain Gary, La Vie devant soi. Il y a aussi beaucoup de musique, moi, qui m'ont composée. Il y a Zola aussi, avec l'Assommoir. Moi, je suis très... je me sens très proche du courant naturaliste du 19e dans la forme littéraire. Et puis après, il y a aussi la rue, parce que c'est un quartier dans lequel j'ai habité et dans lequel je me suis transformée. Et puis oui, c'est vrai, j'ai été Abad, voilà. Bizarrement, j'ai choisi un petit garçon, ça aurait pu être une fille, mais c'est dû à mon histoire personnelle, parce que mon père voulait un garçon. Moi, je suis d'origine maghrébine, et dans ma famille, je ne fais pas de clichés sur la culture maghrébine, mais dans ma famille, on aurait préféré un garçon quand je suis née. Donc dès que je suis née, à 6 mois, on m'a renvoyée en Algérie, c'est mes grands-mères qui m'ont ramenée en France, parce que je n'étais pas du bon sexe. Donc je pense que le fait d'écrire un petit garçon, c'était une manière de répondre comme ça à cette volonté de mon père de m'envoyer ailleurs et de prendre ma place. Oui. Donc, pour te répondre, tous les personnages ont existé en littérature, dans la fiction ou dans la vraie vie, et je les ai croisés à un moment. Et c'est ça la magie de la littérature. C'est comme tu disais, dans cette langue sans gêne, j'adore ce mot-là, c'est cette liberté comme ça de pouvoir être qui tu veux. Dans Rhapsody des oubliés, tu vois, j'ai été un petit garçon de 13 ans, effectivement, qui a les hormones en ébullition et qui a la bouche pleine de piment, comme on dit. Une femme qui raconte le passé de la Shoah en France, de la collaboration, etc. J'ai été une femme noire qui raconte son parcours aussi en tant que migrante, une femme âgée qui va bientôt sur le seuil de la mort. J'ai été des Chibani, en arabe, ce sont les vieux arabes qu'on a oubliés et qui étaient venus en France pour construire le pays, la France. Et ça raconte comme ça toutes ces personnes. Donc c'est toutes les rencontres, avec la volonté de leur donner une présence littéraire, une voix, et d'en faire vraiment des personnages, au-delà des personnages de papier, des voix... qui raconterait un univers qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir envie d'entendre en littérature. Voilà.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est une des particularités du livre que j'ai bien aimé. C'est le fait que ce n'est pas seulement poser des personnages comme ça, c'est en fait limite un témoignage de la vie, parce que c'est vraiment la vie, comment elle est à la Goutte d'Or, comme vous avez dit. Je trouve que ça rajoute quelque chose, le fait que vous ayez vécu, vous avez un témoignage en temps réel, en gros. Et ouais, c'est ça, c'est ça qui m'a touché le plus dans le livre. Vous dites la magie de la lecture, mais pour moi, c'est plus la magie du livre, comment l'honnêteté du livre et le témoignage qu'on ressent.
C'est Noël aujourd'hui, hein. Je suis vraiment très contente. Je voudrais te demander, quel est le personnage qui t'a le plus touché?
Abad.
Abad.
Ouais, c'est Abad.
Et en un ou deux mots, sans t'embêter trop, pourquoi?
Non. Parce qu'on se ressent dans Abad.
D'accord.
On est jeune, on est en crise d'ado, des fois on fait un peu n'importe quoi, on se ressent dans Abad. C'est pour ça.
C'est le côté malade,
ouais,
Abad,
côté malade,
un peu.
Comme vous avez dit, la bouche pleine de piment.
D'accord. Ouais. Mais à la fois, en même temps, il est comme toi, c'est-à-dire qu'il est de son époque, mais en même temps, ça reste un... Bon, il est plus jeune que toi, mais ça reste un enfant qui va passer du côté de l'adolescence et après du côté des adultes, avec forcément beaucoup de pertes, de bonheur, de petites misères. Je pense notamment la découverte de l'amour, de la sexualité, enfin toutes ces choses-là qui sont un peu taboues parfois encore aujourd'hui. Moi, j'ai beau savoir que vous êtes des enfants du 21e siècle, que vous n'avez jamais eu autant de chances de pouvoir communiquer, acheter... mais qu'en même temps, vous restez comme moi, puisque je crois qu'on est une ou deux générations d'écart, vous restez comme moi des enfants, en fait, des enfants ou des adolescents, avec les mêmes désirs, les mêmes premières fois. Et ça, pour moi, c'est important que toi, tu vois, tu me donnes ce témoignage-là, quoi. Donc merci.
De rien, pas de souci. Bah, ouais, je suis d'accord avec ce que vous dites. En fait, peu importe les moyens qui sont différents, nous, nos moyens de communiquer, etc., sont différents des anciennes générations, mais ça reste la même chose dans le principe de grandir, de découvrir, etc. Comme Abad, on grandit, on découvre des trucs. Des fois, c'est mauvais, des fois, c'est bon. Il a du bon et des fois, il a des problèmes, comme avec la découverte de l'amour et avec ce qu'il a fait.
C'était la première fois qu'en littérature, tu rencontrais un héros de papier qui te parlait comme ça ?
Ouais, honnêtement, en fait, c'est la première fois qu'un livre il me touche de cette manière, parce que je ressens vraiment le livre. C'est-à-dire, on a commencé à lire en classe, et bah, tout de suite, j'avais plus envie de le lire.
D'accord.
Parce que ça me faisait rire, en même temps, ça m'attire, en même temps, on se ressent. C'est un livre qui nous parle.
Qui parle à ta génération ?
Ouais, c'est ça qui parle à ma génération.
Écoute, c'est un vrai cadeau d'entendre ça.
Alors, j'avais une autre question. Le livre aborde des thèmes tels que la pauvreté, la justice sociale, la discrimination au sein de la Goutte d'Or. Qu'espérez-vous que les lecteurs retiennent de ces thèmes ?
Bah, je dirais que pour moi, je n'ai pas voulu faire un reportage de BFM en racontant la misère, forcément tout le monde galère, etc. La galère. Mais comme je vous disais, ce roman, c'est aussi un hommage à Émile Zola et notamment à L'Assommoir que vous avez étudié en classe. Oui. Et L'Assommoir, c'est le premier grand roman, on va dire, sur le déterminisme et notamment sur la lutte des classes. Ce n'est pas un roman marxiste, mais presque. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, quand j'ai choisi ce héros qui m'a choisi aussi, hein, c'est assez étrange. C'est difficile à décrire d'ailleurs ce choix de territoire. C'était en bas de chez moi, je dirais, surtout. Et ben en fait, je me suis rendu compte dans mes recherches documentaires que Émile Zola avait écrit L'Assommoir dans le même territoire au 19e siècle. Et que la Gervaise de Zola, elle avait traversé les rues que moi j'ai traversées aussi, puisque je donnais des cours à l'époque dans un centre à des adolescents. Et qu'en fait, la littérature, c'est ça, c'est tout plein de héros, de fantômes qui vous entourent et qu'à un moment, vous avez envie aussi peut-être de refaire parler, parce que cette littérature-là, moi, elle me porte. Le fait de parler de territoires de classes sociales qui ne sont pas forcément entendues au cinéma ou qui me ressemblent aussi dans mon histoire. Et je dirais que c'est pas un roman militant dans le sens où j'ai voulu tout dénoncer, mais c'est un roman en fait qui est un portrait de territoire. Et ce territoire-là, je voulais pas en faire Disneyland, je voulais pas non plus en faire un portrait trop noir, mais je voulais en faire un portrait réaliste. Et en même temps, je dirais que la petite astuce, c'était, et la difficulté surtout, c'était de le raconter à hauteur d'enfant et d'un adolescent. Donc pour Abad, par exemple les barbus ou en tout cas les frères musulmans, je parle pas de tous les musulmans, oui. Hein, parce qu'il y a beaucoup de pages qui expliquent aussi les différences entre les croyants, ceux qui sont aussi embrigadés dans les sectes pour la Syrie par exemple, etc. Abad, il appelle ça les barbapapa par exemple, les filles en niqab, c'est les Batman. Donc moi c'est des mots que j'ai entendu. Bon, les barbapapa, ça m'est venu en tête dans ma tête malade, mais les Batman par exemple, j'ai travaillé en Afrique en tant que reporter et j'ai fait des reportages au Niger et j'avais un ami qui dans mi-2000 a vu la secte Boko Haram arriver, qui est une secte qui fait des attentats, des enlèvements, etc. aujourd'hui encore. Et à l'époque, les filles étaient plutôt en boubou, même si certaines étaient voilées, mais elles se sont mises à toutes porter le niqab en fait. Et ça vient, et le mot Batman vient d'un marché du Niger, de Niamey par exemple. Donc c'est un roman à la fois qui fait le portrait d'un quartier, on va dire au mi-temps des années 2010, pardon, et en même temps ça emprunte aussi à tous mes voyages. Et le plus important pour moi, au-delà de faire ce portrait social du quartier, parce qu'il existe, hein, c'était de raconter, d'essayer de trouver une langue. Je pense que l'astuce du roman, c'est d'arriver à raconter ce quartier sans rentrer dans le cliché, mais sans non plus faire de les bisounours, quoi. C'est-à-dire sans non plus faire de de démagogie en disant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, raconter pour moi le réel d'un quartier au milieu de Paris, c'était se dire aussi Paris n'est pas qu'une carte postale de Emily in Paris, c'est de Uber et de la Tour Eiffel, c'est aussi ça. Et puis, c'était la volonté de m'inscrire dans cette grande lignée, comme je le disais, du roman naturaliste, mais d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Est-ce que la peinture, justement, de ce quartier vous a étonné, vous ?
Moi, j'avais déjà vu le quartier. Et la peinture, elle m'a pas... En fait, c'est pas ce qui m'a le plus étonné sur le livre. Mais je vous rejoins sur le point où vous avez bien fait ce que vous vouliez faire de raconter... la vie de ce quartier, mais sans le décrédibiliser pour autant comme le font BFM, etc. On a pu le voir, de toute façon, dès qu'il y a eu un petit rapport avec la presse, ça a été au début avec l'événement des frères qui prient et des féministes, ça veut dire qu'ils ont directement décrédibilisé le quartier. Mmh. Alors que quand vous racontez l'histoire, bah, vous racontez que c'est pas tout beau, tout rose, vous racontez la cruauté de Paris. C'est exactement. Pas que l'avenue des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, etc. C'est beaucoup plus cruel, Paris, dans le fond. C'est-à-dire que les autres pays, etc., ils voient Paris comme la plus belle ville du monde. Mais là, c'est la cruauté des quartiers de Paris, etc.
C'est un très beau mot que tu as choisi, parce que c'est ça, c'est la cruauté de Paris. Et en même temps, c'est comme une mère qui, à la fois, accueille Abad dans ses bras, et en même temps, est une mère un peu indigne, quoi. Et c'est vrai que c'est le très bon mot, cruauté. Je ne l'ai jamais employé, mais je te le piquerai. Merci. Je t'enverrai des droits d'auteur.
Pas de souci.
Non, c'est ça, c'est la cruauté de Paris, et en même temps, racontée par ce gamin qui vient du Liban, donc de Beyrouth, notamment, ville... et raflé par toute l'histoire qu'il peut y avoir avec l'histoire du Moyen-Orient. Et en même temps, quand il arrive, il est en exil. C'est aussi un roman sur l'exil. Et en même temps, c'est un hommage, effectivement, comme tu disais, à la cruauté de Paris et aussi à son histoire. Parce que j'ai voulu raconter comme ça le lien entre plein de fantômes dans le même arrondissement. Alors, on est en juillet 42 avec la rafle du Veldiv, avec Ida Futterman, la psy qui va aider Abad à s'exprimer, à trouver le sens de l'écriture. On a Odette qui raconte plutôt les petites bonnes bretonnes qui arrivent à Montparnasse, donc le côté populaire de Paris et des ouvriers. Et puis, il y a ce côté Abad qui est plutôt, lui, la voix des nouveaux enfants issus, en fait, juste après le printemps arabe, de toute cette période où le monde arabe a commencé à s'effriter depuis la guerre en Irak, etc. Et il raconte ces nouveaux jeunes qui arrivent et qui sont les Français de demain, pour certains, et qui sont jetés comme ça dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, une ville qu'ils ne connaissent pas. Et des fois, je me dis... une fois, j'ai rencontré un étudiant Erasmus, une fille qui était en train de pleurer à une terrasse de café qui était espagnole. Et je suis allée la consoler parce que j'ai un quota assistante sociale. Et elle m'a dit « je me suis jamais autant sentie seule de ma vie dans une ville ». Et en fait, ça fait ça parce qu'il ne faut pas oublier que Paris est une mégalopole et qu'arriver seule à Paris, réussir à Paris, s'en sortir à Paris, c'est très difficile. Donc cette cruauté-là aussi, elle est présente dans le roman. Et puis, il y a Gervaise qui raconte plutôt les femmes, le parcours de traite comme ça d'une certaine partie de la population et chez les migrants, toutes ces gens qui viennent chercher une espèce de dignité par le travail ici en France, pour certains, d'autres non bien sûr, mais et qui se retrouvent comme ça contre un mur, le mur de la cruauté d'une société qu'ils ne comprennent pas et qui en même temps ne peut que fabriquer de la violence pour eux en tout cas. Et puis voilà, il y a plein d'entrées dans ce roman et en même temps, ce n'était pas une volonté tout de suite de faire un roman social. Mais c'est venu par la suite, je crois. Je crois que c'est mon pédigré aussi. Au fond, c'est peut-être mes origines sociales qui s'expriment tout le temps. On n'en sort jamais vraiment, je crois.
Ouais, ça reste toujours un peu comme
ça. Ça reste toujours. Moi, j'ai eu beau travailler dans des endroits qui peuvent... voilà, France Culture. Effectivement, ce roman, il a eu des prix littéraires assez... Café de Flore, Saint-Germain, etc. Au fond, je me sens jamais différente de l'adolescente qui traversait comme ça, Bondy, à l'époque... Je dormais très peu ici parce que je détestais, mais j'allais tout le temps à Paris. J'étais tout le temps à Paris à l'époque. Et donc Abad, oui, c'était un peu moi aussi.
D'accord. Merci d'avoir répondu à
mes questions. Merci beaucoup. Les questions étaient formidables.
Merci à vous.
Voilà. Oui, je crois que c'est venu dans Ah ouais, on va dire il y a une dizaine d'années. Où le fait de devoir d'avoir envie d'écrire est devenu indispensable. Si j'écrivais pas, je pense que je sais pas où je serais actuellement, en fait, en termes, on va dire, de santé psychique, quoi. Ça m'a permis vraiment d'exprimer quelque chose. Après, je fais la psychanalyse, c'est un autre travail de la pensée, mais c'est vrai que je crois que l'écriture a guéri beaucoup de choses et en même temps m'a donné faim. Donc, ce premier livre m'a donné envie d'en écrire une quinzaine. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de te dire que le feu, il est brûlant tout le temps. Il commence. On va dire j'ai craqué l'allumette il y a une dizaine d'années.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de écrire ?
Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ? Les livres des autres, les films des autres, les musiques, les œuvres d'art. Et puis, parce qu'au fond, je pense avoir un ego assez... même si mon ego a été piétiné par une enfance compliquée, on va dire, je crois que j'ai toujours eu envie d'enfoncer les portes. J'ai toujours eu envie de passer le périphérique, ce que j'ai réussi à faire à l'époque. Et j'ai toujours eu envie de montrer qu'un enfant issu de la classe dont je viens, avec l'histoire que j'ai, pouvait aussi prendre sa place. Et je crois que ça a été aussi un déterminant dans mon envie de d'écrire aussi, de prendre ma voix. Voilà. Après, est-ce que j'y arriverai en créant une œuvre ? Est-ce que je serai toujours écoutée ? J'aurai toujours l'occasion de rencontrer des élèves comme vous ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé, quoi.
Voilà. Quels sont vos conseils pour une personne qui voudrait devenir écrivain ?
Très bonne question. Alors, les conseils, lire. Lire et lire encore. Je sais que ça va être... Tu as l'impression que je t'ai donné un contrôle de maths. Mais effectivement, pour écrire, il faut lire. C'est très important parce que je crois qu'on s'inscrit tous... moi, je suis un écrivain français. Une écrivaine française ou une autrice française. Voilà, ça dépend. Je m'inscris dans une tradition, une longue lignée. Tout à l'heure, votre camarade me parlait du fait que le langage lui parlait parce que c'était un langage un peu cru. Et en même temps, il y a beaucoup de passages dans le livre où l'inspiration vient de la littérature classique, voilà. Donc je crois que pour écrire, il faut lire, et en même temps, il faut avoir vraiment cette idée que un jour, on écrit pour être lu, c'est-à-dire que trouver quelqu'un à qui s'adresser, c'est important. Juste prendre, par exemple, pour toi, si tu as envie d'écrire, ton téléphone, et te laisser le droit de noter ce qui te passe par la tête. Ça commence juste comme ça. Hein. On n'est pas obligé tout de suite de se dire « je vais écrire un grand roman » ou « je vais écrire à la recherche du temps perdu ». Tu peux tout de suite te dire « chaque jour, je note quelques phrases, je suis dans le bus, je suis en trottinette, je ne trouve pas de trottinette, bah, j'ai une phrase qui me vient, je commence à écrire ». Ou avoir un carnet sur soi aussi avec un crayon, ça peut être bien. Et puis aussi de se dire que parfois, laisser les écrans pour écouter de temps en temps un peu la voix qui est à l'intérieur de toi et ne pas hésiter à... En fait, écrire, ça te met quand même dans un état où il faut à un moment laisser un peu le monde autour de soi, notamment les écrans et toutes les sollicitations qu'on peut avoir, nous, aujourd'hui, et s'écouter soi. Donc pour écrire, je pense, en tout cas... C'est vraiment des conseils, on va dire, un peu primaires, mais c'est se mettre à un moment dans le silence, s'écouter soi, et puis laisser cette petite voix se laisser aller à toi, et puis noter n'importe où. Avec l'idée que tout de suite, c'est pas qu'il faut pas être trop exigeant avec soi, c'est qu'il faut pas être un mauvais juge pour soi-même. Ce que t'écris, il faut pas le rayer en se disant c'est pas assez bon. Il faut se laisser aller à l'écriture dans une espèce de simplicité, tu vois, qui fera peut-être quelque chose ou peut-être qui ne fera rien, quoi. Mais en tout cas, est-ce que ça répond à ta question ? Oui. Je crois que c'est le petit conseil que je donnerais. Se laisser le droit, s'écouter de temps en temps, se mettre un peu en silence et puis surtout ne pas avoir peur de d'écrire, en fait, tout simplement. Et puis lire, surtout. Voilà.
Merci d'avoir répondu à ma question.
Ah, je pensais qu'il y en aurait une autre. Et toi, tu voudrais écrire ?
Je ne sais pas trop.
Est-ce que tu écris déjà ? Est-ce que ça t'arrive d'écrire sur ton téléphone, par exemple ?
Des fois, oui.
Quel genre de...
En fait, j'écris sur moi, mais...
Bah, on commence toujours tous par ça, hein, le journal intime. Enfin, aujourd'hui, c'est... Par exemple, il y a une forme sur Internet qui vient de YouTube qui s'appelle Storytime. Vous devez connaître à peu près tous. Bon, c'est juste Storytime, c'est-à-dire le temps de l'histoire. Mais en fait, c'est un peu comme du roman. Dans le roman, on a en France, on a une tradition purement française qui s'appelle l'autofiction. Ça veut dire la fiction de soi, s'écrire soi. Et c'est drôle parce que les gamins qui pensent qu'ils ont inventé quelque chose avec les Storytime, on a toujours fait ça. Donc les gamins qui écrivent, comme toi sur son téléphone, c'est un petit peu entre guillemets de la littérature de soi, tu vois. Donc c'est déjà bien.
Merci.
Avez-vous eu des difficultés à le faire publier? Avez-vous eu des refus des maisons d'édition?
Non, en fait, j'ai pas eu la même histoire de publication que beaucoup, c'est-à-dire que moi, dans mon parcours, j'ai fait une émission de radio sur mon histoire sur France Inter, radio publique, et j'ai raconté en fait ma démarche pour retrouver un peu à travers les archives mon histoire de placement à la ZEU. Et puis en fait, il y a quelqu'un d'une maison d'édition qui m'a entendu et qui m'a contacté via les réseaux sociaux en me proposant d'écrire mon histoire. Sauf que moi, j'écrivais déjà mon roman de mon côté. Donc en fait, ils m'ont demandé de les rencontrer, et puis on a eu un coup de foudre artistique, et ils m'ont proposé comme ça d'écrire mon histoire, et ils ont lu les premières pages de mon roman, et ils m'ont signé pour deux romans. Donc je ne suis pas passée par le schéma classique d'envoyer par la poste, mais parfois je me dis que ça doit être quelque chose dans la vie d'un écrivain absolument génial d'envoyer son manuscrit par la poste et d'être rappelé. Ça doit être un moment extraordinaire. Mais j'ai ressenti la même chose quand j'ai été contactée, c'est un peu vieux pour vous, mais sur Facebook, quelqu'un qui m'a dit: on vous a entendu à la radio, on voudrait vous rencontrer, quoi. Ça a été pareil, j'ai eu de la chance. Je pense que ce livre, malgré tout, il y a une... En arabe, on appelle ça le mektoub, le destin. Il y avait quelque chose qui était écrit dans ma vie, qui a été écrit pour que ce livre naisse. Alors j'espère qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, il devait naître. Je crois que... Et oui, il y a un deuxième, ouais, qui est en train de... qui est en train d'essayer de sortir, c'est pas évident. C'est comme un bus au pont de Bondy pour passer à un feu rouge, pareil.
Le lien que vous avez fait avec Gervaise,
oui.
C'était au 19e siècle, mm-hmm. Et il y a sur les... Il dénonce quelques faits sur, sur le monde social à ce moment-là, à la Goutte d'Or. Mm-hmm. Depuis le temps, ça a pas mal changé, mais il y a beaucoup de choses qui sont toujours vraies. Et est-ce que vous, depuis que vous avez écrit ça, vous pensez que ça a changé?
Que les choses ont changé, c'est une excellente question. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, je me suis inspirée quand même beaucoup du déterminisme, du naturalisme du 19e siècle d'Émile Zola, jusqu'à calquer un personnage et le nom d'un personnage qui est Gervaise, qui a son livre, dont L'Assommoir. Et comme j'expliquais tout à l'heure, dans ma recherche d'écriture, je me suis rendu compte que Gervaise avait habité mon quartier, ce qui est quand même incroyable. Donc je vous dis, quand on écrit un roman, il y a toute une histoire qui vient aussi à côté du roman. Les fantômes littéraires de ceux d'avant viennent vous parler parfois. Et effectivement, dans L'Assommoir de Zola, Gervaise est l'incarnation du déterminisme social, c'est-à-dire que Zola est comme un scientifique, et d'ailleurs c'est le fond de la pensée de ce courant qu'est le naturalisme, où il veut décrire le réel de manière tellement scientifique qu'il n'y a même pas d'échappatoire. Et c'est ça le déterminisme social. Dans le mien, effectivement, j'ai raconté le même... on va dire, la même spirale de la pauvreté et de la lutte des classes. Mais en même temps, souvent, je regrette un peu qu'elle n'ait pas eu d'issue positive, parce que toutes les filles qui arrivent à Paris, même par les réseaux, certaines s'en sortent par des associations, etc. La Gervaise de Zola était une petite bonne du sud de la France, montée avec ses enfants, victime des hommes, de l'alcool, de ses désirs d'embourgeoisement qui, en fait, sont décrits de manière parfois un peu dans le jugement par Zola, on pourrait penser ça. Et moi, ma Gervaise est aussi une jeune femme du Cameroun qui rêve juste d'ouvrir une blanchisserie, de récupérer sa fille, et qui, elle aussi, au début, est victime de la violence des hommes, notamment par sa mère, par les agressions aussi physiques et sexuelles, etc., et qui se retrouve embrigadée dans un réseau de traite humaine, dans des réseaux mafieux du Nigérian, en fait. Et il y a beaucoup de filles, moi, dans mon arrondissement, quand je repensais à l'Assommoire, que j'ai vu marcher autour de Château Rouge, de Marca des Poissonniers, aujourd'hui Porte de la Chapelle, Stalingrad, qui sont des gamines de votre âge et qui viennent de Sierra Leone, d'Angola, du Nigeria, et qu'on jette comme ça en France, et qui, comme des esclaves, et qui ont une seule chose à faire, c'est rembourser la dette de leurs parents. Elles sont emprisonnées dans des sectes aussi liées à la magie noire, etc. Enfin, voilà. C'est tout un système, en fait, de d'esclavage moderne. Et effectivement, la Gervaise de Zola a été victime du déterminisme social, et ma Gervaise à moi est victime aujourd'hui d'un déterminisme social mondialisé. Voilà. Et Rhapsody des Oubliés, au fond, c'est aussi un roman un peu, je dirais pas féministe, mais en tout cas qui raconte les violences faites aux femmes de manière parfois détournée, contournée, mais en même temps assez, assez frontale, quoi. Donc je dirais que j'ai essayé, à travers plein de petites touches comme ça de personnages, de raconter, d'être dans cette suite naturaliste de Zola. Je ne sais pas si c'est très clair.
Ouais.
Voilà, donc, mais est-ce que ça a changé aujourd'hui? Moi, personnellement, je ne suis pas... surtout à l'époque politique, de violence politique dans laquelle on est, je pense que ça n'a pas changé. Mais je pense que moi, je suis aussi, par exemple, un exemple de possibilités de résilience et de ce qu'on appelle le transfuge de classe, enfin entre guillemets, même si je galère toujours autant financièrement comme tout le monde, hein. Mais je pense que en fait il faut avoir deux manières de l'exprimer. La première, c'est de se dire que il y a un chantier immense, notamment en termes d'égalité sociale, etc., et d'accès, on va dire, à l'égalité de revenus pour tout le monde. Et en même temps, il y a une possibilité par les études. Je veux dire, le système français, il est tel qu'il est, mais parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Bon, je suis en train de partir dans une grande logorée, mais je sais pas trop comment répondre. C'est pas assez... Est-ce que ça te paraît clair ce que je dis ou pas?
Oui, oui. Ouais.
C'était quoi la question déjà?
Est-ce que vous m'avez répondu là, mais c'était,
oui, c'est
à la
ça.
Base, est-ce que selon vous, depuis, ça a changé, ça a évolué?
Pour moi, par rapport, alors je vais essayer de revenir à une focale sur le quartier. Le quartier n'a pas changé. Le quartier a toujours eu une sorte de douceur de vivre, parce que c'est un quartier hyper riche culturellement. Il y a une centaine de nationalités, autant de langues. C'est un quartier d'immigration avec l'histoire de la guerre d'Algérie, pas que, l'histoire aussi de la création de courants musicaux énormes entre Château Rouge, c'est-à-dire l'apport de tout ce qui est l'Afrique centrale en termes de musique, la rumba congolaise, etc. Puis aussi la musique algérienne qui est le Shaabi. En fait, c'est un quartier hyper riche culturellement, mais qui malheureusement, avec la gentrification, c'est-à-dire... Le rachat des immeubles, la spéculation immobilière, etc., est en train de devenir, je pense, un peu, pour moi, le symbole de Paris que je déteste. C'est-à-dire qu'on a fermé Tati, par exemple.
Ah, oui, oui.
Tati, jusqu'au fin fond de la Papouasie, comme je dis dans le roman, c'est l'incarnation du magasin populaire, quoi. Et quartier Barbès est le quartier populaire par excellence pour moi, même s'il y en a d'autres, hein, le 20e, etc. Mais ça incarne pour moi la richesse... de cette idée que Paris était une sorte d'oasis pour les gens du monde entier, de petites lumières comme ça dans la beauté aussi qu'a l'histoire de la culture française, le siècle des Lumières, pas que, mais cette idée qu'on pouvait, comme disait Cocteau, y renaître. Je ne suis pas née à Paris, j'y suis. Il a dit être parisien, ce n'est pas naître à Paris, c'est y renaître. J'adore cette phrase parce que pour moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Mais en même temps, socialement, c'est difficile. Et depuis quelques temps, je pense depuis 2 ans, l'après-Covid a énormément plongé la société dans une violence assez frontale. Et Barbès, notamment la Goutte d'Or, toute la solidarité qu'il y avait entre les générations, l'arrivée des drogues dures aussi, beaucoup aussi la question des migrants, la violence sociale. Par exemple, il y a une médiathèque à la Goutte d'Or dans laquelle j'ai fait une rencontre. Et ben, il y a quelques mois, elle a été fermée parce qu'il y avait un four devant, enfin, il y avait un point de deal. Et les mecs empêchaient les gens de rentrer à la bibliothèque. Alors que ça, il y a 10 ans, on ne le voyait pas. Et que les structures pour les enfants, pour les mamans, étaient respectées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, par exemple. On va dire que... Et il y a votre génération aussi qui a fait changer les choses. Donc, j'en parle aussi, ça, dans Rhapsody. Et puis, il y a une certaine génération qui est partie dans le silence, qui est celle de nos grands-parents, qui ont travaillé dans le silence, qui ont été humiliés, etc., qu'on n'a pas reconnus. Et toute cette génération a créé, par exemple, des syndicats comme l'Association des travailleurs maghrébins de France à une certaine époque. Et ils sont partis sans qu'on écrive leur mémoire, par exemple. Il y a tellement à dire sur Barbès que je te prendrai en otage pendant 10 ans pour te décrire. Mais en fait, les choses ont changé. Et en même temps, dans les rencontres... dans le fait de s'asseoir à un arrêt de bus, il y a toujours quand même, chez tout le monde, ce charme que peut avoir ce quartier, quoi. Le 18e, c'est vraiment pour moi un village français, de Montmartre à la Goutte d'Or. Bon, Porte de la Chapelle, c'est Walking Dead, j'y vais jamais, mais en tout cas, voilà, c'est un charme fou, quoi. C'est un charme fou et en même temps, je l'aime et je le hais, un peu comme je le dis dans mes remerciements. Une ville que j'aime et à la fois que j'ai toujours eu envie de quitter, quoi. Donc, voilà.
Merci. Oui, donc moi, du coup, j'avais 2 petites questions. Alors déjà, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire Rhapsody des oubliés? Enfin, pourquoi l'avoir appelé comme ça, ce livre?
Eh bien, moi, je vais être méchante et je vais te reposer la question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Rhapsody des oubliés? C'était juste pour prendre une pause, en fait.
Bah, en fait, justement, c'est le fait de les oublier, en fait, je comprends pas trop. Enfin, pour vous, qu'est-ce que c'est les oublier? Vraiment, je sais pas pourquoi le livre s'appelle comme ça. C'est pour ça que je vous pose la question.
D'accord. Alors, Rhapsody, ça veut dire couture de chant en grec ancien. Mmh. C'est une forme, on va dire que c'est une forme d'expression littéraire comme l'Odyssée, etc. Et ça veut dire coudre le chant, donc le couper. C'était aussi les rhapsodes, c'était des personnes qui allaient dans les villages raconter les grandes épopées, les chants, les grandes épopées. Donc à la fois, c'est en même temps, il y a aussi rap dedans, voilà. C'est une forme musicale, la rhapsodie, avec une certaine rythmique. Et puis, c'est comme un collage de plein de choses. Et c'est un chant aussi populaire, comme le conte, comme l'épopée, comme l'Odyssée, etc. Et puis, les oubliés, en fait, c'est un mot à plusieurs sens, comme en général on le fait dans les titres de romans, quand on se casse un peu la tête. Il y a à la fois, c'est à la fois un roman sur la mémoire, Rhapsody des oubliés, donc sur un quartier, sur ce qui peut nous lier aussi dans l'histoire de France, comme cette amitié entre une femme au passé comme ça traversée et par la Seconde Guerre mondiale et ce petit gamin qui arrive d'un pays du Moyen-Orient. Je voudrais trouver ce lien entre ce qui nous lie entre les générations, entre l'enfance. Et puis, il y a oublier au sens d'oublier de la société, c'est-à-dire ceux qui en fait n'ont pas forcément voix en littérature et qui... et que j'ai voulu raconter. Et puis, il y a la notion d'oublier aussi au sens de nos exils intérieurs. Donc, Rhapsody des oubliés traite de plein de sens métaphoriques autour du mot oubli. Voilà. C'est à la fois une fresque sociale, une envie de trouver ce point de réconciliation des petites histoires dans la grande histoire de France, et puis raconter un quartier de personnes, un quartier populaire aussi, quoi. On appelle ça en général des précaires, des oubliés. Il y a même une violence politique jusqu'à les appeler les sans-dents. Moi, j'ai choisi le mot oublié, je le trouve beaucoup plus les marginaux. Je ne pense pas que ce soit de marginaux, c'est des gens qu'on croise partout et tout le temps. Voilà. Et puis c'était m'inscrire dans la tradition, comme je disais tout à l'heure, de Zola, quoi, avec le naturalisme du 19e.
Ok, et voilà. Ma dernière petite question, c'est est-ce que vous avez des regrets ou pas?
Oui, ouais, j'en ai, mais c'est dur d'en parler comme ça. C'est une question, vous avez été assez franc du collier, j'aime beaucoup dans vos questions, franchement c'est chouette. Oui, j'ai des regrets, je pense que le regret c'est... je crois, c'est d'avoir... En fait, on m'a réclamé souvent une suite parce que la fin, elle est telle qu'elle est. Je ne vais peut-être pas la déflorer pour ceux qui n'ont pas lu la fin du livre. Mais peut-être, parfois, c'est de ne pas avoir écrit plus ou écrit une suite tout de suite, par exemple. Et est-ce que j'ai le regret pour un personnage ? En fait, j'ai envie de vous dire, le seul regret que j'ai pas, c'est celui d'avoir vraiment galéré pour essayer de trouver une forme littéraire qui soit pas juste pour moi, avec mon histoire personnelle, l'idée d'un roman qu'on se fait sur un quartier de Paris ou ce qu'on appelle la littérature immigrée, quoi, par exemple. J'ai essayé vraiment dans Rhapsodie des oubliés de faire littérature et de faire poésie, et j'ai eu l'impression d'y être arrivée. Et parfois, quand je relis, quand je fais encore des lectures 3-4 ans après, je me dis des fois, ce que je regrette, c'est d'avoir mis autant de gros mots. Et en même temps, je parle comme ça. J'ai grandi une bonne partie de mon adolescence en Seine-Saint-Denis au début des années 90. C'est aussi une partie de ma culture, le hip-hop, ce que vous appelez ça la street aujourd'hui. Bon, moi, j'appelle ça juste mes racines sociales, quoi. Et puis, je crois que parfois, ouais, j'ai été un petit peu trop libre dans les gros mots. Et en même temps, des fois, ça me fait rire, quoi. Il y a des mots... Non, je me suis fait plaisir. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop regretter. Voilà. Voilà.
Ok.
Merci.
Est-ce que vous vous êtes aidé de quelqu'un pour vous aider à écrire ?
Alors, c'est... Non. Non, ça, j'ai écrit mon roman toute seule. Et peut-être... ouais, je vais dire des fantômes autour de moi. Non, mais j'ai... Ah si, après, pour te répondre vraiment franchement, il y a le premier jet, c'est-à-dire la première version, et après, le travail avec l'éditeur. Donc ça, oui, effectivement, dans ces cas-là, je peux dire qu'il y a quand même une aide éditoriale pour que le roman soit ce qu'il est, quoi.
Et à la fin du roman, son père, Abad, j'ai pas compris s'il a disparu ou s'il est décédé, parce que en général, il disparaît comme ça. Du coup, vous pouvez m'expliquer.
Eh ben, chère jeune fille, tu as fait la question et la réponse. Donc, en fait, effectivement, ouais, le père disparaît parce que. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de Zola. Dans l'Assommoir, il y a Coupeau, qui est le nouveau mari de Gervais, qui a un accident et qui tombe du toit. Et à partir de ce moment-là, il perd tout honneur de la condition d'homme. En fait, il chute totalement, ensuite, avec la spirale de l'alcoolisme, etc. Et je voulais, à travers le père d'Abad, raconter aussi ses pères qui, au fond... quand ses pères d'origine immigrée, quand ils arrivent en France, se retrouvent dans la spirale du travail parce qu'ils n'ont pas de papier aussi, parce qu'ils sont exilés, et se retrouvent dans la violence sociale aussi de ce statut de négation de statut d'homme, en fait. Et le père d'Abad, à partir du moment où il perd son corps, il tombe d'un toit comme Coupeau, il se retrouve en fait, lui, qui est déjà, on va dire, assez post-traumatisé par son parcours, il perd toute cette idée de la condition d'homme qu'il se faisait, en fait. Et puis, il commence à avoir ce virus de la honte par rapport à son fils. Donc, la seule solution qu'il a, c'est de laisser ses chaussures de chantier. Et c'est pour ça que je raconte les chaussures qui restent ce matin-là, et de partir, tout simplement, et de laisser son fils et sa femme. Parce qu'il ne peut plus les regarder en face, tellement il a honte. Et ça, je pense que vous posez la question à plein de pères. Quand on perd quand on est ouvrier, quand on est maltraité par la violence sociale et la violence du monde du travail, en plus quand on est dans un pays étranger, je pense que, enfin, en gros, il est vraiment victime de l'exil, quoi, de son exil, et il disparaît pour ne pas faire face à son fils et à sa femme, en fait. Et c'est juste après avoir regardé un reportage sur les évaporés du Japon. Au Japon, la pression sociale et du statut du travail est tellement forte, il y a énormément de suicides, hein, et en même temps, il y a aussi un grand phénomène de société qui est ce qu'on appelle les évaporés. Dire que des gens qui choisissent parce que du jour au lendemain, ils ne peuvent plus payer leur loyer ou ils n'ont plus de ce statut de travailleur, ils choisissent de disparaître du monde. Parce que pour eux, il est impossible de se montrer face au monde en ayant perdu tout statut social. C'est d'une violence énorme. Et en fait, le père voit ce reportage et choisit de fuir en même temps que ça. Enfin, en voyant cela, quoi.
J'ai une autre question. Est-ce que après que votre livre a été sorti, vous avez eu des critiques assez négatives par rapport à ce livre ?
Oui, j'en ai eu forcément, notamment sur la langue. En fait, je ne vais, vais pas non plus raconter des bêtises, mais j'ai eu un accueil que vraiment j'imaginais pas. J'ai eu beaucoup de chance pour la sortie de ce premier roman. J'en ai toujours le fait que 3 ans après, on continue comme ça à en parler, c'est génial. Mais oui, j'ai eu quelques critiques négatives, pas dans la presse, mais plutôt dans les rencontres, notamment sur la langue. Il y a des élèves, par exemple, que j'avais rencontrés qui me disaient « Mais il y a beaucoup de gros mots, vous parlez de choses un peu trop... vous parlez trop de sexe, ça parle trop de choses un peu comme ça, un peu trop, trop crues, on ne comprend pas. » On va dire un étonnement de certains élèves d'une autre génération qui pensaient que la littérature ne pouvait pas forcément être aussi, aussi comme ça crue, on va dire, ou franche, ou libre, comme disait tout à l'heure votre camarade. Et puis, une autre critique, elle a été plutôt celle d'une dame, justement dans une médiathèque dans le 18e, qui m'a dit « Vous stigmatisez notre quartier ». Et en fait, bizarrement, c'est mon quartier aussi. Ce n'était pas forcément une femme d'origine immigrée ou quoi que ce soit. C'était plutôt une ancienne associative d'une certaine génération, peut-être 60-70 ans. Et je lui disais « En fait, madame... on ne peut pas ne pas être libre en littérature. C'est pas possible. Moi, je ne vois pas la littérature comme un endroit où il faudrait être voilà, trop poli, bien séant, etc. C'est les critiques que j'ai eues. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme critique? Je crois que peut-être dans mon dos, oui, sûrement. Mais en général, le livre a plutôt été bien accueilli. Ouais, quand même. Mais c'est surtout sur la question de la langue. Si une fois on m'a dit comme ça, mais c'est pas du français. Ça m'a bien énervé. Ça m'a bien, comme on dit, ça m'a bien vénère. Ça m'a bien énervé parce que je me suis dit, si ça c'est pas du français, je pense que la langue que vous parlez n'est pas du français également. Voilà. Donc ça c'était plutôt un lecteur dans le cadre d'un prix d'un salon de province. C'est pas du français. C'est l'idée que vous vous faites du français surtout. Donc voilà les critiques plus ou moins que j'ai eues.
J'ai une dernière question. Mm-hmm. Est-ce que vous avez, quand vous avez fini votre livre, vous l'avez fait lire à votre famille et vos proches et qu'est-ce qu'ils en ont pensé si c'est le cas ?
L'année dernière, on a eu un événement, parce que je ne suis pas trop en lien avec ma famille, mais on a eu un moment un peu douloureux en famille, donc j'ai dû les revoir. Et effectivement, tout le monde était fier parce qu'ils m'avaient vu à la télé. J'ai eu la chance de faire des émissions de télé, etc. Donc tout le monde m'avait vu. Mon éditeur aussi a mis ma tête dans le métro. Ça a été incroyable à vivre. Et en même temps, j'ai un oncle qui est poissonnier, qui est assez, en même temps très pratiquant. Il est musulman. Mais il m'a dit « ça m'a fait rire ». Il m'a dit « ça m'a fait rire ». Il m'a dit... quand je voyais le gamin, il m'a dit « j'aurais pu être choquée, mais je te revoyais aussi toi quand tu étais petite ». Il m'a dit « parce que tu avais une grande bouche et que tu étais toujours en train de crier. Et en même temps, tu étais une petite fille comme ça, assez joyeuse, assez libre. » Et il m'a dit « je crois que tu n'aurais pas pu écrire autre chose ». Et ça a été un vrai compliment aussi. Donc, ma famille l'a plutôt bien accueilli. Après, par exemple, ma famille en Algérie, je ne sais pas, je pense pas. Il n'est pas encore sorti là-bas. J'espère qu'il sortira là-bas un jour. Mais j'ai eu plutôt un bon accueil, on va dire. Ma grand-mère était très fière de moi. Pourtant, elle ne sait pas lire, tu vois. Elle était très fière de moi. Je lui ai offert le livre. Peut-être qu'un jour, elle l'ouvrira. Après, j'espère en écrire d'autres qu'elle puisse lire quand même un peu moins comme ça, un peu moins sauvage. Mais voilà.
Votre deuxième roman. Il est prévu pour quand ?
Alors, je vais faire une réponse très courte, mais très longue. Non, mon deuxième roman devait sortir il y a 2 ans, mais il est prévu normalement pour la rentrée de septembre 2024. Voilà. Okay.
Super mal.
Voilà. Et j'espère que vous le lirez. En tout cas, merci à la classe du lycée Henri Sellier de Livry-Gargan. Merci à Bibliocité. Ah, merci. Merci à Monsieur Pierre Briffon, merci à la région.
Merci d'être venu, ça a été un plaisir de vous rencontrer et de vous avoir posé toutes ces questions.
Bonne route à tous et puis continuez à lire. Et c'était vraiment un plaisir de partager cet instant avec vous. Bonne journée.
Merci à vous aussi.
Merci. Vous avez été super. Hein. Merci beaucoup.